Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux par une météo si grise. Je suis Claire Desserets, je travaille au Livre de Poche qui édite depuis de nombreuses années une grande partie de l'œuvre de Boris Vian. Et nous avons fêté l'année dernière les 60 ans du Livre de Poche. Et c'est une année exceptionnelle parce que c'était une année qui nous a permis de fêter dignement tout ce catalogue si riche que nous défendons. Et parmi ce catalogue, il y a un auteur qui est vraiment pour nous très cher à notre cœur parce qu'il représente à la fois une époque et aussi notre époque actuelle, c'est Boris Vian. Et nous avons proposé à Nicole Berthold, qui est la représentante de la Coërie Vian, qui depuis de nombreuses années, comme elle va vous l'expliquer, à la fois défend l'œuvre de Boris Vian, mais aussi suscite toutes sortes d'actions dans tous les arts pour faire connaître à ceux qui ne la connaissent pas encore et poursuivre l'œuvre de Boris Vian. Voilà, donc c'est une animatrice, mais pas seulement, extrêmement dynamique, énergique, comme vous allez voir, et surtout, elle connaît par cœur l'œuvre de Boris. Et l'idée qu'on s'est donnée, c'est de se demander qu'est-ce qui faisait qu'aujourd'hui encore, Boris Vian était si cher au cœur de gens de toutes les générations. Parce que c'est quand même ça qui reste, je trouve, le plus intéressant aussi maintenant.
Merci Claire. Oui, merci. Merci avant tout, vous êtes là devant moi une fois encore, dans la mesure où ça fait plus de 30 années que je parcours la France, l'Europe et même un peu le monde avec effectivement celui qui n'est plus parmi nous physiquement, qui est Boris Vian et qui est effectivement toujours très présent. C'est toujours une joie, un plaisir d'être devant son public ou devant en tout cas des curieux qui ont envie d'en savoir plus. Mais peut-être en préambule, je pourrais un petit peu plus me rencontrer parce que souvent, on est un peu étonné de voir Nicole Berthold là, qui vous parle de Boris Vian. Je ne suis pas journaliste, je n'ai pas fait de thèse, je n'ai pas fait de grandes études littéraires ou même d'histoire éditoriale, je ne l'ai pas connu. Il n'était pas le voisin de ma famille, ni rien du tout de tout ça. C'est un peu comme le petit prince qui tombe dans le désert, vous voyez, sans aucune prétention, je serais un peu le petit prince, et le désert, qui est finalement très habité, serait effectivement l'œuvre de Boris Vian. C'est-à-dire que je rencontre, il y a maintenant, 30, je comptais tout à l'heure, il y a 38 années, parce que même pour moi, ça finit par être incroyablement loin et pourtant tellement près, il y a 38 années, je rencontrais la femme de Boris Vian, nommée Ursula Kübler parce que même si elle était mariée à Boris, elle tenait toujours à garder son nom de jeune fille et puis son nom de scène, car elle était danseuse professionnelle. Je vous nommerai deux noms incroyablement célèbres, puisqu'elle dansait avec, en l'occurrence, Roland Petit et Maurice Béjart. Voilà. Donc une personne vraiment très très impliquée dans le monde de la danse et pas seulement. Et finalement, cette rencontre avec Ursula, qui au départ est une rencontre lambda, dans un petit village des Pyrénées, un peu par hasard, au hasard de rencontres avec des amis, de vacances comme ça, c'est ces rencontres finalement, un jour, qui tracent toute votre vie. Voilà, et c'est comme ça. Je ne peux pas me l'expliquer comme elle ne pouvait pas se l'expliquer. C'est-à-dire qu'avec Ursula, il y a eu quelque chose entre nous d'un peu différent. Il est sûr qu'elle était extrêmement convoitée, si je puis dire, très belle, très très belle, et aussi bien sûr sollicitée de par l'œuvre de son mari, feu son mari. Néanmoins, moi je connaissais plutôt bien du haut de mes quelques années, j'étais une adolescente, l'œuvre de Boris Vian, mais enfin je m'en fichais un peu. Et puis en plus, j'avais pas lu ni L'écume des jours, ni J'irai cracher sur vos tombes. J'avais lu L'automne à Pékin et j'avais lu L'herbe rouge, voilà, qui est beaucoup moins connue, et ça me plaisait bien d'aborder l'œuvre comme ça. Donc ça, avec Ursula, nous avions d'autres discussions. Je venais d'un monde tout à fait différent du sien, un monde très ouvrier et difficile. Et puis on a appris à faire connaissance petit à petit, comme ça. Je lui demandais rien. Je crois que finalement ça a commencé comme ça. C'est que je ne lui demandais rien. Il est sûr que quand on est ayant droit, vous imaginez d'une jeune femme, 29 ans, qui folle amoureuse de son mari, qui est Boris Vian, qui a rencontré un nombre de personnalités incroyables, se retrouve donc veuve et se retrouve à la tête d'un patrimoine dont elle ne sait pas exactement ce qu'il faut qu'elle fasse. Donc, on est en 1960, puisque Boris mourra en 23 juin 1959. Il va y avoir effectivement une année où elle va essayer de se remettre très péniblement de ce deuil, bien qu'elle ne s'en remettra finalement peut-être jamais. Et à partir de 1960, il va y avoir un défilé permanent de personnes dans la maison. Cette maison, elle a aussi une histoire. Elle a une histoire bien particulière et je vous place ce décor-là, vous voyez, bien précisément pour que vous compreniez. Boris Vian arrive avec Ursula Vian-Kubler et leurs quelques cartons, parce qu'ils n'ont pas de pognon ni l'un ni l'autre. En 1953, ils arrivent dans une petite impasse juste derrière le Moulin Rouge, qui s'appelle la Cité Véron. Cette petite impasse, elle a une particularité très importante, c'est qu'en fait, elle conduisait, car ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais enfin, elle conduisait à l'arrière du Moulin Rouge. Finalement, quand vous accédez par la Cité Véron au bout de l'impasse, vous êtes dans l'arrière du Moulin Rouge, avec tout un dédale de salles, etc. C'était tout à fait incroyable à l'époque. J'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est beaucoup plus rangé, intégré, etc. Mais à une époque, c'était tout à fait incroyable. C'était un labyrinthe. Et donc, tout de suite, ce lieu a plu à Boris et Ursula. Ils s'y sont installés dans un petit deux pièces de rien du tout. Alors, il y avait cette particularité d'être dans Montmartre, ce qui est quand même plutôt sympathique. Ensuite, d'être dans l'arrière du Moulin Rouge. Puis, de voir arriver un voisin, alors on ne peut plus célèbre, j'ai envie de dire, plus que célèbre dans le monde entier, Monsieur Jacques Prévert. Donc, la vie déjà de Boris Vian à ce moment-là et la vie d'Ursula, ce n'est pas rien. Donc quand Boris va disparaître en 1959, Ursula est toujours dans le Moulin Rouge, enfin est toujours dans Montmartre, qui dans le Moulin Rouge est toujours voisine de Jacques Prévert, de Jacques et de Janine, sa femme, et également de leur fille Michèle Diminette. Si je vous parle d'eux, c'est parce que tout de même, quand je suis moi-même arrivée dans cette maison, je vais vous dire dans quelles circonstances, j'ai travaillé 12 ans simultanément pour les deux maisons. Ce qui n'est quand même pas rien, c'est-à-dire que subitement vous vous retrouvez propulsé à aller d'une maison à l'autre, d'un salon à l'autre, parce que les deux appartements finalement sont directement liés par une terrasse commune, et il était donc très très facile d'aller de chez l'un à chez l'autre. En plus, quand Jacques Prévert est mort, moi je l'ai très peu connu, je l'ai vu deux fois dans ma vie, Jacques, et il laissait aussi une veuve qui ne savait pas grand-chose des droits d'auteur. Alors, comme Ursula, 15 ans avant, avait donné, si je puis dire, il s'est passé finalement, à travers moi-même, j'étais un peu le trait d'union, une espèce d'entraide entre les deux maisons. Voilà. Alors, c'est une vie très particulière, très dense. Vous pouvez bien imaginer que je ne peux pas complètement expliquer aujourd'hui pour ce qui est de ces deux maisons, mais c'est important de le souligner. Mais il y a aussi quelque chose d'autre, c'est de travailler et d'habiter, car j'habitais sur les lieux, et d'être auprès de Janine Prévert et d'Ursula Vian, mais d'un point de vue très intime. Hein, c'est-à-dire que s'il y avait des personnes merveilleuses qui passaient, comme Truffaut de temps en temps, ou Marcello Mastroianni par exemple, mais aussi Gabin, etc., c'était aussi tout simplement leur intimité. Donc moi j'étais quand même là, non pas du tout pour faire le cerbère, mais en fait pour les servir et pour les aider dans leur quotidien et leur vie privée. Et leur vie privée n'était pas simple et pas facile. Et aujourd'hui, on peut en parler notamment parce que la fille de Jacques Prévert et la fille de Boris Vian, j'ai eu l'immense chagrin de les enterrer toutes les deux. Elles étaient un peu comme mes deux sœurs, vraiment. Minette Prévert est morte en 1984 et Carole Vian est morte en 1998 d'une sclérose en plaques. Donc c'est un parcours douloureux derrière ce parcours public. Donc finalement, moi j'ai été très vite très très investie au niveau professionnel certes, ça s'est fait presque tout seul, ça je vais y revenir, mais au niveau aussi humain. Et donc je connais beaucoup de choses, on va dire, voilà, dans l'arrière-cuisine ou dans l'arrière-salle qui représentent la vraie vie privée chez les Prévert et bien sûr chez les Vian. Au bout de 12 années, j'ai eu, entre guillemets, ça a été très difficile à choisir, car c'était des œuvres, et ce sont des œuvres immenses, qui demandent un travail immense, une sorte de dévotion, si je puis dire, et donc je me suis plutôt tournée vers Ursula Vian, avec laquelle j'avais vraiment un contact très fort et très... on va dire, oui, presque familial. Attention, ne pas se tromper, je n'ai pas pris Ursula Vian pour ma maman. Souvent, on me l'a demandé, la génération, nos deux générations font qu'elle pourrait avoir exactement l'âge de ma mère et moi, l'âge d'une fille qu'elle aurait pu avoir avec Boris. Comme toute danseuse, elle n'a pas eu d'enfant, car c'était sacrifier sa carrière, mais bien entendu, Boris Vian ne voulait absolument pas entendre parler d'enfant avec Ursula, puisqu'il en avait eu deux d'un précédent mariage, dans la mesure où il se savait condamné. Un homme d'une trentaine d'années qui sait qu'il n'a pas le sou, qu'il n'est pas reconnu, parce que c'est ça Boris Vian dans les années 50, et qui en plus va avoir la prétention de faire des enfants, ça c'était pas du tout dans sa mentalité. Il n'était pas ni cynique ni pessimiste, mais il était tout simplement réaliste et il n'avait pas envie de laisser Ursula dans l'embarras avec un enfant. Pour elle, ça sans doute était difficile et peut-être sans nous le dire, c'est sans doute ce tissu-là que nous avons tissé l'une envers l'autre. Puisque moi-même, j'ai envie de dire, je peux le dire, je n'ai pas vraiment de famille. Donc, nous avons été plusieurs comme ça autour de l'œuvre de Boris Vian, peut-être sans famille, car Ursula en avait une en Suisse, mais qu'elle voyait rarement. Finalement, à nous organiser autour de l'œuvre de Boris Vian comme s'il était, non pas notre enfant, mais un enfant, on l'éduque, on lui donne tout ce qu'il faut pour qu'il se réalise, s'épanouisse. C'est un petit peu ce qu'on a fait finalement. Alors, pour en revenir au début, si je puis dire, et en même temps pour faire un pont avec l'actualité, il y a Boris Vian et l'écume des jours. Là, il est quasi impossible de parler de toute la vie de Boris Vian et toutes ses œuvres et tout ce qu'il a fait. Et moi-même, tellement de souvenirs me viennent comme ça. Alors, j'essaye un petit peu, comme l'a demandé Claire, et ça c'est une bonne chose, de commencer par l'écume des jours, puisque l'année dernière, il y a eu le film de Michel Gondry. Et en même temps, ce n'est pas une mauvaise chose du tout. Car entre le Boris Vian, cité Véron, et effectivement, aujourd'hui et avant cette période-là, il y a l'après-guerre, il y a le jazz, il y a les Américains, il y a « J'irai cracher sur vos tombes ». Il y a tout ce qui va faire, tout ce qui va construire Boris Vian. Et il y a bien sûr l'écume des jours. Et puis... ça, il l'écrit en 1946, il l'écrit en 1945-46, et il se trouve que, voilà, pas loin de 60 ans plus tard, un jour, quelqu'un me téléphone, un producteur, me téléphone et me demande si les droits de l'écume des jours pour le cinéma sont vacants, sont ouverts. J'étais un petit peu timorée parce que, j'avais dans la tête, je vous parle de ça il y a 6-8 ans, vous savez les films c'est très très long, hein. Si vous avez vu l'écume des jours au cinéma l'année dernière, cette histoire pour moi a commencé il y a 6-8 ans. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'à ce moment-là, j'étais en train de me dire, le monde de l'image saurait répondre à la vision de Boris Vian et de son livre, donc je m'en vais aller démarcher auprès de productions, de films d'animation, pour que l'écume des jours soit en film d'animation. Ce producteur m'appelle, donc ce n'était pas tout à fait son envie, et il me donne rendez-vous rue Marbeuf. Je ne sais pas si vous le savez, mais Boris Vian est mort rue Marbeuf. Il est mort dans un cinéma lors de la projection de « J'irai cracher sur vos tombes », c'est-à-dire de l'adaptation de son propre ouvrage, qu'il détestait, il avait molesté, il s'était servi beaucoup de lui, servi du nom, de son nom. Mal payé, enfin, il avait été très froissé et il avait très très mal vécu cette affaire de « J'irai cracher sur vos tombes », en dehors du scandale déjà, qui l'avait poursuivi pendant des années, presque 15 ans en arrière, donc l'affaire n'en restait pas là. Et donc, Boris Vian est allé voir malgré tout la projection de ce film, cette adaptation, et il est mort pendant la projection. Donc, j'ai envie de dire, la vie et la mort de Boris Vian tiennent vraiment lieu de son... c'est du cinéma. Et donc, quand le producteur m'a dit qu'il me donnait rendez-vous rue Marbeuf, et lui n'a pas du tout fait la relation, Et moi-même, j'avais un problème cardiaque. Et donc, je me suis dit que j'espérais que c'était un bon présage, mais j'y allais un peu à reculons.
Juste une chose, Nicole, et je crois que c'est intéressant aussi de savoir que tu habites Cité-Véron aussi.
Oui, je ne l'ai même pas dit, vous voyez, oui, tellement ça me paraît évident.
C'est une chose que, oui, qu'on ne sait pas, mais Nicole habite dans l'appartement de Boris Vian.
Oui, qui est resté absolument quasiment en l'état depuis 59, parce que Boris, en tant qu'ingénieur, avait tout fait chez lui. Et puis, comme il savait plutôt très bien bricoler, ben, c'est resté en très bon état. Seulement, il est mort, voilà, quelques années. Il y a même des choses qui sont restées inachevées. Donc, vraiment, tout est là. Et Ursula, en bonne Suisse, qui aimait aussi les choses bien solides, s'est dit, pourquoi je vais recommencer derrière? Pourquoi je vais changer ce qu'a fait Boris? Donc, je reste dans ses meubles, et c'est très bien comme ça. Il y a juste le lit à étage avec les poulies qu'elle a fait défaire, parce que ça c'était un peu difficile. Voilà. Et donc, j'ai habité 5 ans tout de suite avec eux sur place. Et puis, plus tard, j'ai habité encore un peu. Et puis là, maintenant, ça fait pas loin d'une dizaine d'années que j'habite sur place, où je m'emploie à laisser en état tout ça. Ça veut dire qu'il y a les disques de jazz de Boris, il y a sa bibliothèque, ses outils, enfin, toute une partie de son âme. Et c'est extrêmement présent, sans aucune prétention. Je crois que je peux dire que des gens du monde entier viennent voir cet appartement, ce petit appartement très simple, mais qui respire l'ouverture, l'humanité et une certaine joie de vivre, et puis la découverte et la curiosité. Donc il est sûr que pour rappeler le contexte, quand Claire me fait dire que j'habite là, c'est quand on me téléphone, je réponds au téléphone de Boris Vian, parce que le téléphone en bakélite y est toujours d'ailleurs, etc. Enfin, je suis vraiment dedans, en immersion. C'est ce qui fait aussi peut-être la qualité de réception par rapport à l'œuvre, et c'est ce que j'ai aimé en tout cas chez Vian. Et pour la famille, où ils ont souhaité cela. Donc le producteur, je vais le voir. Très vite, on a eu envie de faire ce film ensemble, parce qu'il était suffisamment fou pour relever le défi. Et je peux vous assurer que je crois qu'il faut l'être pour relever ce défi, parce que c'est quand même un roman, un des romans d'amour les plus connus, en tout cas en France, un des auteurs les plus représentatifs, avec toutes ses facettes, toutes ses personnalités. Vian, c'est quelqu'un de très connu et de méconnu en même temps. Donc, c'était vraiment un challenge. Donc, c'était pas évident. Alors, il m'a demandé très vite qui je voyais comme réalisateur. Alors, à l'époque, je lui ai cité 3 personnes. Je lui ai dit Michel Gondry, bien évidemment, Jeunet, et Tim Burton, puisque comme vous le savez, ils ne sont pas à notre disposition, ces gens-là, et donc il y a des histoires d'emploi du temps, et que c'est des choses qui prennent des années, donc tout ça se fait petit à petit, etc. Alors on a commencé à rentrer là dans des discussions, des pourparlers à tous les niveaux. Finalement, Jeunet ne souhaitait pas faire le film, il n'aimait pas l'idée d'adapter L'écume des jours. Et ça, libre à lui, et c'était d'ailleurs tout à fait aimable de l'écrire et de le dire. Voilà. Et d'ailleurs, il préparait à ce moment-là le film que vous avez sans doute vu sur les écrans, qui est sorti l'année dernière, qu'il a fait aux États-Unis. Et puis, Tim Burton, c'était impossible pour des raisons vraiment de calendrier. Moi, j'aimais bien l'idée de Tim Burton, parce que j'aurais pu imaginer aussi du film d'animation. C'est-à-dire de faire les deux ensemble, etc. Finalement, j'ai joint directement Michel Gondry, qui est venu me voir, Cité-Véron, bien sûr, curieux de voir l'appartement de Boris Vian, intéressé, impressionné, et en même temps, lui-même, qui faisait à l'époque les clips de Daft Punk et de Björk, ça ne l'impressionnait pas beaucoup, mais enfin, tout de même, il faut savoir que Michel Gondry a un amour très particulier, effectivement, avec L'écume des jours, et qu'il a toujours voulu adapter ce livre. Donc ça, c'était quand même intéressant et important. Ensuite, il y a la question de savoir si c'est d'actualité. Oui. Voilà, C'est pourquoi d'un seul coup on arrive là. Alors le producteur s'était quand même enquis de, auprès de pas mal de professionnels, auprès de jeunes, dans des écoles, il avait posé la question. Et à chaque fois, tout le monde lui répondait c'est une super idée, c'est une super idée, c'est une super idée. Il n'entendait que ça. Et quand on adjoignait le nom de Michel Gondry, alors tout de suite ça donnait oui bien sûr, oui bien sûr, oui bien sûr. Avec ce côté effectivement ingénierie et puis surtout de décalage. Maintenant, ce n'est pas pour ça que le pari est gagné, hein, parce que dans le monde du cinéma, il y a tellement d'autres paramètres, à commencer par le casting, à commencer par la musique, à commencer par les décors, à commencer par un nombre incalculable de choses à régler pour un film qui se voulait immédiatement d'envergure internationale. Pourquoi ? Parce que l'écume des jours qui gravite depuis tant d'années, je veux dire, chez nos amis éditeurs et libraire, et notamment à la librairie Mola, bien sûr, je crois. Finalement, ce livre est traduit dans plus de 40 langues. Donc, c'est un livre qui se vend beaucoup à l'étranger également. Et donc, des producteurs s'intéressent à la question si, en plus, ils peuvent faire un livre, un film d'envergure nationale et internationale. Là, les ennuis commencent, parce qu'alors mettre tout le monde d'accord sur la pensée de Boris Vian à travers son bouquin, et c'est là où c'est très très difficile, c'est qu'on a l'impression que ce livre a fédéré toutes les générations, c'est-à-dire 5-6 générations depuis qu'il est mort. Mais finalement, quand on le met en image, qu'est-ce qu'on met en image ? Est-ce que la poésie peut se mettre en image ? Parce que l'écume des jours, c'est vraiment de la poésie à l'état pur, mêlée. En même temps, comme d'autres l'ont fait, je veux dire, par exemple, comme Apollinaire, c'est-à-dire de parler en même temps d'un quotidien, de politique, du tragique, c'est-à-dire, en l'occurrence, pour Boris Vian, du travail, et de ce foutu travail qui nous anéantit et nous avilit. Et en même temps, on pourrait imaginer qu'il a voulu parler de sa propre maladie quand il parle d'une Chloé qui va mourir d'une maladie des poumons qui est entre le cancer et la maladie de cœur, hein, puisqu'elle a un nénuphar qui se développe, enfin des racines de nénuphar qui se développent en fait dans son poumon droit puis son poumon gauche. Donc on pourrait imaginer que Boris Vian se projette. Faut pas croire. Il avait une propension à garder une grande distance avec sa propre maladie. Il est tout à fait capable de pouvoir parler de ces choses-là sans penser à lui, et plutôt même de penser à d'autres amis à lui qui étaient malades, ou d'autres personnes qui ont pu croiser sa route, d'autres amis notamment qui ont pu croiser sa route. Et je pense notamment à Michel Cotte, un ami photographe qui avait une maladie au poumon. Boris Vian se passionnait pour les végétaux aussi, pour les fleurs et pour tous les végétaux. Ça, c'était ses amours d'enfance. Il avait été élevé en partie dans la banlieue parisienne et également à La Hague. À La Hague, dans le Cotentin. Le Cotentin, si vous voyez, c'est Cherbourg. Et quand vous rentrez dans Cherbourg, il y a une petite partie nommée La Hague, tristement célèbre avec l'usine nucléaire. Mais La Hague, c'est aussi une enclave absolument sublime. Et par un effet météorologique assez puissant, il pousse des tas de plantes exotiques. Et ça, c'est connu, et c'est pas des choses de l'esprit, parce que ça existe toujours. Et là-bas, c'est assez étonnant de voir des tas de palmiers, de bananiers, etc. Donc Boris Vian, quand il était petit, ils avaient une résidence là-bas, et il y avait des fleurs tout à fait, et des plantes tout à fait extraordinaires. Du reste, il a transposé une partie de l'arrache-cœur dans ce coin-là, par exemple. Donc pour en revenir à l'écume des jours, beaucoup de choses ont été dites depuis que le film a été tourné, a été donné. Il me paraissait assez légitime que Romain Duris ait le rôle de Colin, par exemple. En même temps, je n'avais pas mon mot à dire. Hein. Autant j'ai été conseiller artistique sur tout le tournage, enfin sur toute réécriture d'ailleurs du scénario et sur toute la mise en place du film. Mais ensuite, il y a eu un peu blocus, et ça c'est bien normal parce que là c'est après tout de suite les réseaux de distribution qui s'en mêlent, savoir qui on va choisir. Alors on a eu la chance ou pas la chance d'avoir 4 têtes d'affiche, qui est quand même très rare dans un film français. Puisque c'est Audrey Tautou qui accompagne Romain Duris, et puis également Aïssa Maïga qui accompagne Gad Elmaleh, et puis bien sûr Omar Sy. Marcy n'a pas voulu faire la promotion, puisqu'à ce moment-là, il partait aux États-Unis et ses attachés de presse américains ne le souhaitaient pas. Il ne comprenait rien du tout à l'écume des jours du reste, ce qui est assez drôle, comme quoi, voilà, cette poésie, certaines personnes peuvent y être hermétiques. Et puis, après, Michel Gondry a eu un parti pris d'essayer de mettre de visu un certain nombre de mécaniques qui existent dans le livre. C'est intéressant comment Boris Vian voit ça et fait cela, lui, de son point de vue, et comment ça nous est arrivé jusqu'à nous. Parce que finalement, l'histoire, elle est une histoire unique et en même temps multiple. C'est-à-dire, c'est l'amour fou, et l'amour fou qui sera sanctionné par une mort. Finalement, quelle mort ? Parce que quand on relit le bouquin, si certains l'ont lu ou relu, finalement, c'est beaucoup plus ambigu que ça, l'amour entre Colin et Chloé, en fait, puisque d'ailleurs, à un moment donné, Colin a envie d'aller vers Alice, etc. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Il y a aussi l'amitié profonde et première qui peut exister notamment entre les hommes, cette amitié profonde que Boris Vian d'ailleurs défendait beaucoup. Et cela aussi, on le voit bien avec Chic, son ami qui collectionne du Partre, du Jean-Sol Partre. Finalement, tous les deux, ils sont vraiment tous les deux ensemble, au point qu'ils souhaitent se marier en même temps et qu'ils en font presque un jeu. Si tu te maries, moi je me marie aussi, etc. Donc il y a quelque chose d'assez très jeune, de très naïf, de très beau, de très premier degré. Peut-être on a tous rêvé de ça quand on avait effectivement 20 ans, et pourquoi ne pas le faire ? Et puis il y a cette réalité épouvantable qui est que Colin est une personne très nantie, puisqu'il distribue allègrement son argent jusqu'à ne plus en avoir, et puis Chic qui travaille en tant qu'ingénieur, donc on pourrait imaginer qu'il a un peu de moyens, mais Boris Vian, de son point de vue, il estimait qu'être ingénieur, c'était vraiment être un crève-la-faim. Il détestait ça. La preuve, c'est qu'il était ingénieur. Sur le papier, il a été ingénieur 7 ans. En réalité, il a été ingénieur plutôt 5 années. Les deux dernières années, il n'a pas fait grand-chose. Et il estimait que pour le boulot qu'ils avaient à faire, ils étaient très mal payés, mais il faut dire que c'était l'après-guerre. Et en même temps, si il le voit comme ça, parce que c'est un petit peu pédant, que de voir les choses comme ça, c'est parce que Boris Vian est issu d'une famille, d'une très grande famille bourgeoise. Famille bourgeoise qui a perdu absolument toute sa fortune. Et pas du tout à cause de la guerre, mais à cause du krach boursier de 1929. Comme ça s'est fait pour énormément de familles françaises. Il y a eu des milliers, dizaines de milliers de familles qui ont perdu toutes leurs actions en 1929. Donc Boris Vian a cette propriété dans la Hague avec ses parents, a cette propriété en banlieue parisienne à Ville d'Avray. C'est un enfant qui est tout à fait hors norme. Il a la bibliothèque à disposition. Oui, c'est vrai qu'il a eu un précepteur à cause de sa maladie. Donc oui, c'est vrai, il lisait et il écrivait à l'âge de 5 ans. Et oui, c'est vrai, à l'âge de 8 ans, il avait lu tous les classiques. Et ça, c'est absolument vrai. Parce que j'ai noué une amitié profonde et très longue avec la sœur de Boris Vian, avec Ninon. Et bien sûr, si vous mettez les années en arrière, puisque j'ai rencontré Ursula il y a 38 ans, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes qui ont connu très très bien Boris, et notamment beaucoup de personnes de sa famille. Et c'est du reste pour ça que je me permets de l'appeler Boris, parce que tous les gens avec qui je parlais, c'est Boris, c'est-à-dire il est là, quoi. Ou même Ursula, elle me disait, oui, alors tu comprends, Boris, il mettait les pieds là sur la cuisine, comme ça, sur la chaise, moi j'aimais pas ça, et ceci. Et alors, il y a une espèce de côté comme ça tellement, tellement proche qui fait que... Alors, j'étais très, très liée aux frères, mais surtout à la petite sœur de Boris Vian, Ninon, qui a donc, bien sûr, grandi aussi avec son frère, famille extrêmement unie. Et donc, elle m'a parlé beaucoup de tout cela. Et Boris Vian était un enfant pas banal, un enfant qui rêvait beaucoup, peut-être certains auraient dit même beaucoup trop, qui avait une intelligence prodigieuse, c'est-à-dire une vivacité d'esprit, en même temps qui ne parlait pas beaucoup, qui était assez renfermé, et en même temps qui avait un monde à lui. Alors, il a emmagasiné des milliers d'images et des milliers d'œuvres, comme ça, il faisait beaucoup parler les amis de ses parents qui revenaient de voyages insensés de partout. Et puis, on retrouve des petites choses après dans ses romans de droite et de gauche. Donc, il a envie, comme ça, de partager déjà avec des adultes beaucoup de choses. Et donc, j'ai envie de dire, et pour le savoir, je crois directement, il a peut-être jamais été exactement un enfant. Du reste, il disait que les enfants n'existaient pas. C'était un passage virtuel qui n'existait pas. En fait, on était directement adulte. Et que cette enveloppe de chair qui se voulait être enfant ne voulait rien dire, mais qu'on était déjà fait comme des adultes et que ça durerait tout le temps. Donc il y avait une perception très, très, très particulière. Et du reste, avec ses enfants, ça n'a pas été simple, avec Patrick et avec Carole. Voilà. Alors pour en revenir à cette écume des jours, hein, je fais des digressions pour que vous ayez un peu une idée de l'ensemble de tout ce qui peut se passer dans une vie à la Boris Vian. Il y a effectivement un film qui finit par se construire et une liberté que s'octroie le réalisateur, qui est aussi le scénariste, avec le producteur qui est aussi le scénariste. Et il est très important qu'il s'octroie des libertés. Et comme l'a dit Michel Gondry lui-même, il ne s'agit pas pour lui d'essayer de calquer sa pensée sur celle de Vian et d'essayer de faire l'écume des jours que Boris Vian aurait fait, mais il a fait ce qu'il a pensé être son écume des jours. Et ce qui est bien normal et ce qui n'est pas facile non plus, parce que finalement c'est un challenge énorme, parce que beaucoup de gens, quand on fait un livre, quand on fait d'un livre un film, effectivement, on prend un risque immense parce que chacun réécrit son film, si je puis dire. Quand on lit un bouquin, et c'est ça la puissance de la lecture et la magnificence d'une œuvre, c'est de pouvoir trouver et de savoir, je veux dire, à un moment donné, trouver les images, la personne, etc. Alors moi, je dis, comment vous voyez telle personne ? Oh ben, je la vois comme ça. Oh ben, je la vois comme ça. Mais en même temps, au fur et à mesure de ce que je demandais, personne n'a la même idée. Personne a envie de la même chose et personne ne voit la même chose. Il y a des gens que ça a beaucoup ennuyé de voir Audrey Tautou et Romain Duris qui avaient le double de l'âge, d'autres que ça n'a pas ennuyé, enfin, étant de choses. Finalement, j'ai envie de dire que je suis contente que ce film ait eu lieu parce que ça marque son temps, d'une part, et ce film, lui, il existe, et comme le disait si bien Ursula Vian, ça ne retire rien à l'œuvre de Boris. C'est-à-dire que comme elle le faisait quand elle recevait des tas de personnes qui venaient lui demander des autorisations, d'adaptation et de tas de choses, il était très simple pour elle de dire oui. Les gens disaient, ah mais vous êtes très gentil, vous nous autorisez, alors on peut faire tel montage, on peut faire ci. Mais oui, bien sûr, ça ne retirera rien à l'œuvre de Boris. Il a écrit comme ça, son œuvre elle est comme ça. Vous allez vous en inspirer, vous allez faire quelque chose. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, ça n'enlèvera rien à l'œuvre de Boris Vian. Tu vois, je crois qu'on peut légèrement s'enorgueillir du fait que le livre de Boris Vian, de l'écume des jours, s'est extrêmement bien vendu pendant toute la période de préparation du film, de tournage, et donc, puis après, le film lui-même, et puis même après. C'est-à-dire que des tas de gens ont eu envie de revenir à l'œuvre, finalement, de la découvrir ou la redécouvrir, et finalement, je n'avais pas mesuré. Mais des tas de personnes qui viennent me voir à la maison, parce que je reçois des groupes, je reçois même des particuliers, parce que beaucoup de gens me demandent de partout de voir l'appartement et de partager un moment, me disent « Ah, mais moi, j'ai pas pu aller voir le film. Finalement, je me suis dégonflée, j'ai pas pu. Ça, j'en avais un souvenir trop magnifique, je pouvais pas. Alors, je préfère lire le livre et relire le livre. » Et moi-même, je n'avais peut-être pas mesuré à quel point beaucoup de gens n'avaient pas envie, effectivement, enfin, préfèrent... Voilà, garder ce livre un peu comme quelque chose de très précieux, de très secret. C'est un livre à tiroir.
Oui, mais je voulais dire qu'on s'est rendu compte que l'écume des jours, l'année dernière, fait partie des livres, des 20 plus grosses ventes de livres de poche de 2013, en grande partie grâce à tout ce travail qui a été fait autour du film. Et c'est bien de se dire qu'encore maintenant, tous ces gens, jeunes et moins jeunes, lisent ou relisent ou découvrent ce texte qui reste toujours aussi merveilleux, je trouve, à la fois merveilleux et grave.
Grave et drôle.
Voilà, exactement.
Ouais. Oui, dans tout le sens, vraiment. Et d'ailleurs, ça, c'est tout à fait la personnalité de Boris Vian. Hein. Quelqu'un de très grave et en même temps quelqu'un qui rit beaucoup. C'est vraiment, on retrouve toujours cette double facette comme ça. Ça dépend des époques. Forcément, plus il est arrivé dans le temps et plus son cœur l'a malmené et plus il avait de difficultés à résister, j'ai envie de dire, à l'angoisse. L'angoisse de la mort omniprésente. Il y a quelque chose qui est une des clés de l'écume des jours dans son écriture. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Et si je pense Boris Vian continue d'exister, c'est parce que quand même, sa qualité littéraire est quand même reconnue. Du reste, il est passé à la Pléiade en 2010. Ça a pris du temps, mais ça s'est quand même fait. Parce que Borisian avait une technique d'écriture très particulière, qui pourrait être très simple. Il voulait absolument écrire des phrases courtes, extrêmement simples, pratiquement avec aucun mot compliqué ou des tournures de phrases compliquées, et néanmoins développer des idées plutôt complexes. Et si vous prenez une phrase au hasard dans l'écume des jours ou dans l'herbe rouge, ce sera toujours une phrase très simple, très compréhensible, très limpide. Néanmoins, quand vous les accolez les unes aux autres, des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Alors, ça tient de la pataphysique, là. Ça tient d'un univers. Ça, on ne le dit pas souvent et on ne le voit pas toujours et ce n'est pas toujours vu comme cela. Borisian, lors d'une interview, disait qu'il ne supportait pas, et ça, il le disait entre autres pour son copain Sartre, il ne supportait pas l'élitisme et il ne supportait pas tous les écrits, finalement, qui n'étaient pas pour le plus grand nombre hein, et pour le grand public. Et ça, c'était quand même vraiment à son honneur. Et ça, c'est quelque chose qui est assez merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, Borisian, il est vraiment populaire, hein, tel qu'il a voulu vraiment être, hein, c'est-à-dire être lu par tout le monde. On n'a pas besoin d'être lettré. Et c'est pas du tout, je ne le dis pas du tout de façon condescendante, mais il est sûr, pour avoir eu la chance de rencontrer Jean-Paul Sartre au crépuscule de sa vie, ça devait être en 77, il est mort en août 80, je crois. On s'est vu plusieurs fois, puisque la première épouse de Boris Vian a eu des liens affectifs très forts avec Jean-Paul Sartre. Et depuis 1948 jusqu'à sa mort, et donc par le biais de Michel, j'ai rencontré Sartre. Et Sartre était très malheureux d'être moins bien reçu de la génération 80, par exemple. Hein, on ne va pas refaire l'histoire, mais enfin, on le sait que combien dans les années 40, 50, 60, Sartre a été le pape, hein, du reste, comme on pouvait le nommer, et d'une intelligence rare, d'une analyse, d'une autocritique, etc., qui fera plus tard. Néanmoins, ses écrits restent difficiles. En cela, il n'est pas classé exactement comme un auteur, mais plutôt comme un philosophe, un penseur, mais enfin aussi comme un dramaturge, puisqu'il a fait nombre de pièces de théâtre. Et il en souffrait de ça à tel point qu'il a réécrit certains livres, hein, à la fin de sa vie, parce qu'il a eu envie de communiquer plus simplement, peut-être, avec les nouvelles générations. Et Boris Vian avait capté ça avec certains de ses copains à l'époque, tout simplement Raymond Queneau. Tout simplement, Raymond Queneau, c'est Zazie dans le métro, entre autres, mais pas seulement. Hein, c'est tellement d'autres livres, avec ses 1 000 000 000 de poèmes, par exemple, une idée absolument magnifique. Mais tout ça, encore une fois, ça tient à la pataphysique. Alors la pataphysique, ça renvoie à Alfred Jarry, donc à Hubert Roy. Tire ce monde, encore une fois, très très en décalage, où on parle de choses qui n'existent et qui n'existent pas. Parce que bon, Hubert Roy, ce n'est jamais qu'une espèce de junte militaire à lui tout seul ou de totalitaire à lui tout seul. Donc finalement, on parle là encore de politique, mais avec une drôle de bonne femme qui est moche et laide, etc. Tout ça fait l'objet d'un théâtre en Pologne, je veux dire, au début du XXe siècle. Enfin, bref, tout ça pour dire que Queneau et Vian avaient cette idée-là comme ça, et Prévert. Prévert, personne ne me dira le contraire, que Prévert est un poète. Il n'aimait pas qu'on dise de lui qu'il était un poète, mais en tout cas un homme tout simplement de l'écrit et de l'écrit populaire, parce que ces poésies touchent tout le monde, parce que tout simplement elles sont d'une limpidité, d'une simplicité totale, et pourtant elles vont tellement loin. Et Vian, il a capté ça, et c'est assez étonnant, parce que de là où il vient, étant donné qu'il a fréquenté vraiment que la haute bourgeoisie pendant vraiment toutes ces années jusqu'à l'adolescence, c'est vous dire. Il y a une petite anecdote, par exemple, ça je ne pense pas que vous le sachiez, parce que c'est vraiment des choses de famille, mais Boris Vian aurait pu être baron, par exemple. Parce que, en fait, sa tante était baronne. C'était Madame la baronne de Birmingham. Et ce n'était pas n'importe quelle baronne. Enfin, je veux dire, quand les Birmingham arrivaient à la maison, chez Boris Vian, c'était... ils roulaient carrosse. Hein. Et finalement, les Birmingham n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Alors, forcément, la tante en question, elle s'est retournée vers sa sœur, hein, qui était donc la mère des enfants Vian et qui avait 4 enfants. Et elle aurait bien voulu qu'un des enfants Vian devienne, voilà, passe du côté Birmingham. Ce qui se faisait relativement couramment dans la noblesse et l'aristocratie à une époque quand les femmes ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ou les hommes du reste, d'ailleurs aussi. Maintenant qu'on le sait. Avant, on disait que c'était les dames. Maintenant, on sait que ça vient des deux côtés. Mais en attendant, ils ont demandé à Alain, le petit frère de Boris, qui a dit absolument non et non. Et puis, Boris, je crois que lui, il aurait peut-être bien accepté. C'est ses parents qui n'ont pas voulu. Mais c'est dire quand même, comme quoi ça l'amusait, peut-être avoir non comme ça à rallonge et quelque chose. Ça ne l'aurait pas empêché d'écrire ce qu'il écrit. Parce qu'il a, il a besoin, si je puis dire, de cette universalité. Et ça, c'est quelque chose, vous savez, qui ne s'explique pas. Les auteurs, les peintres, les artistes, quels qu'ils soient, qui restent au-delà d'eux-mêmes, au-delà de leur génération, et qui restent et qui vont au-delà de leurs frontières, je pense parce qu'il y a quelque chose d'universel. Et il y a quelqu'un qui avait posé cette question à Picasso, d'ailleurs, et qui avait répondu justement... Mais je crois que c'est parce qu'un Chinois, un Polonais ou un Africain regarderait mes tableaux et il comprendrait ou il ne comprendrait pas, mais il y aurait quelque chose qui l'atteindrait. Peut-être que c'est bien ça. Et Vian, à travers ses écrits, pas tous, parce qu'il y a des choses plus ou moins faciles d'abord, il y a quelque chose d'assez universel. C'est ce côté-là qu'il avait embrassé enfant à travers toutes ses lectures, à travers toutes ses rencontres. Et c'est sans doute ce qu'il voulait. Cette universalité, ça correspond aussi à deux choses, la liberté et la paix. Et ça, toute la famille Vian sont des grands adeptes. Ça, il faut savoir que chez eux, mais c'est... La guerre, c'est même quelque chose qu'ils ne comprennent pas. C'est même pas qu'ils prennent parti, ne comprennent pas. Ce sont des gens qui sont éminemment cultivés, éminemment ouverts. Ils vont héberger des Juifs, bien sûr, pendant la guerre. Je dis bien sûr, parce que pour eux, ça ne serait pas autrement. Boris ramène un copain à la maison en 42, et le copain en question est juif. Vous imaginez, dans d'autres familles, ça aurait pu être des hauts-cris ou ceci, cela. La famille vient, on trouve ça on ne peut plus normal, on s'organise pour le faire quitter la France, etc. Et avant, entre les deux guerres, c'est pareil, on s'intéresse à tout et à tout le monde. Pourvu qu'il y ait de la matière, pourvu qu'il y ait des envies, pourvu qu'il y ait de la passion, pourvu qu'il y ait voilà, de l'évasion, etc. Alors, c'est une mixité de plein de choses. Ce Boris Vian qui est élevé dans une famille d'immense liberté, je dis bien immense liberté, hein. Il travaillait à l'école ou il ne travaillait pas à l'école, ils allaient à l'école, ils n'allaient pas à l'école, la mère s'en fichait royalement, elle trouvait toujours tout bien. La mère Pouche, il l'appelait. Parce que dans un petit livre d'enfants, la mère Pouche était une maman chatte qui avait toujours tous ses enfants sur le dos ou dans son petit panier. La mère Pouche, alors la mère Pouche avec ses 4 enfants, elle les trouvait tous parfaits tout le temps. Ça va, l'école s'est bien passée. Oui, maman, nous avons eu 0 en histoire, 2 en sciences. C'est très bien, mes garçons. Aucun souci. Les institutions s'en fichent royalement, hein, c'est-à-dire pour eux, que ce soit en matière politique ou d'éducation, c'est-à-dire que pour eux, ils imaginent qu'on se fait soi-même. C'est pas une ineptie, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on raisonne plus comme ça, et je pense que le modernisme de Boris Vian va aussi dans ce sens-là. Aujourd'hui, ça peut paraître anachronique, on parle de liberté, très grande liberté, et en même temps, malheureusement, il y a des tas de pays et des tas de citoyens qui en sont privé, mais en tout cas, on a envie d'être de plus en plus libre. Enfin, on n'est quand même plus au Moyen-Âge où il y avait des serfs et des seigneurs, tout de même. Même si on dit que les temps sont rudes, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Pour Boris Vian et sa famille, donc pour sa famille et Boris Vian, si je puis dire, ayant fait leur généalogie, donc étant remontés à 3 générations, ils sont un peu tous comme ça, et des deux côtés, aussi bien du côté du père que du côté de la mère. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une liberté profonde et une paix profonde, hein, tant qu'à faire, parce que qui dit liberté, c'est pas pour aller taper sur le voisin d'à côté, forcément. Donc pour eux, tout ce qui est querelle, tout ce qui est problème, ça ne les intéresse pas, à tel point qu'ils sont un peu mal vus, parce qu'ils ne vont jamais prendre parti pendant la guerre. Et notamment, Boris Vian naît en 1920, enfin, juste avant, vous avez quand même la guerre de 14-18 qui vient de passer et qui a fait des dégâts gigantesques. On va beaucoup en parler cette année, bien entendu, puisqu'on est en 2014. Mais pour eux, comment dire, c'est l'hérésie des hommes. Il n'y a même pas à prendre parti. C'est quelque chose qui leur fait profondément mal et qui ne leur plaît pas du tout. Alors, à travers cela et à travers le travail, alors qui est encore autre chose, alors le père, il est rentier, bien sûr, il est très riche, le père, il est rentier, donc il fait de l'horlogerie, il traduit des articles en allemand, en anglais, parce qu'il sait ces deux langues, etc. La mère, elle est concertiste, elle joue du piano et de l'harpe. Alors elle joue très 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 bien, et puis elle est soprano, alors elle chante. Alors vous imaginez, dans cette maison extraordinaire, il y a le père, il construit des bateaux pour des maisons de poupées, etc. Il traduit des choses, on reçoit telle personne qui revient de pays tatar, ou telle personne qui vient de traverser la Russie en train, etc. Le voisin le plus proche, il s'appelle tout de même Jean Rostand, vous imaginez, le fils d'Edmond Rostand, vous imaginez. Jean Rostand, il collectionne ses grenouilles et il est en train d'expliquer à Boris toute la journée qu'on va pouvoir faire une société avec que des grenouilles femelles, etc. Et tout ça, ça se passe devant chez lui, avec des cornues, des tas de choses incroyables et tout. Enfin, c'est tout à fait incroyable. Et là, tout ça, c'est dans ce monde-là. Donc, dans ce petit monde, il y a Edmond Rostand, Jean Rostand, et puis le frère de Jean Rostand, qu'on connaît très très peu, qui a travaillé avec Sarah Bernhardt. Vous dire, alors là, c'est le théâtre. Alors lui, il arrive en jupon et en rouge à lèvres. Homosexuel, hein, on parle ça dans les années 25, 30, très rare quand même. Alors il arrive avec son ami, etc. Enfin, c'était la famille Vian, elle les accueillait. Rien de tout ça les dérangeait. Hein. Rien de tout ça les dérangeait. Pour eux, c'était, comment dire, c'était bien, c'était simplement pousser les limites, je veux dire, de ce qui est, pour trouver, et puis pourvu que les gens soient heureux, c'est tout ce qui leur importait. Alors finalement, Boris Vian, fort de tout cela, lorsqu'il est lui-même rentré dans le monde, si tant est qu'il y est rentré, il avait en lui mille mondes. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il a pu écrire ses livres avec une facilité déconcertante. J'ai eu la chance, et je pense être la seule personne qui a lu toute l'œuvre de Boris Vian sur manuscrit, ce qui doit représenter à peu près 23 000 pages, dans la mesure où il y en avait quand même une bonne partie à la maison. Il a gardé beaucoup, beaucoup de choses, et une autre partie aujourd'hui qui est à la Bibliothèque nationale, à Richelieu. Et en fait, c'est incroyable de voir ses écrits, parce que c'est jeté comme ça sur le papier. Ça représente d'un seul coup tout ce qui est en lui et qui sort. Hop. Et puis il est très précis. C'est-à-dire que vous ne savez pas pourquoi, au milieu d'une page ou qui est sortie comme ça, hop, il enlève quelque chose, un petit quelque chose, il change avec autre chose, etc. Comme ça, tout ça est construit dans sa tête. Comme il est ingénieur, il décide d'être ingénieur parce que, ma foi, pour lui, c'est facile hein, d'être ingénieur. Vous allez me dire, il y en a. Il se présenterait trois fois au concours. Lui, pour lui, tout ça, c'est facile. Il n'apprend quasiment jamais, Boris Vian. C'est comme s'il savait déjà. Ça, j'ai encore deux très bons copains qui ont 94 et 95 ans, Pitou et Bimbo. On les appelle comme ça parce que c'est Boris qui les a surnommés comme ça. Et ils ont fait Centrale avec lui. Vous imaginez, il faisait partie de la promotion 42B, hein, puisque c'est des promotions comme l'ENA, les mines, etc. Et donc, Pitou et Bimbo, oh, tu sais, quand on n'avait pas fini nos devoirs, Boris, comme il était pressé, hop, il nous demandait, hop, il faisait comme ça, à main levée, poup, 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 hop, il en écrivait un autre, hein, etc. Tout ça chez lui, c'était extrêmement facile. Il s'intéressait beaucoup à la métallurgie, Boris Vian, et aussi à l'aviation. Il aurait beaucoup voulu construire des avions. Voilà, mais des avions complètement fantasques, hein. Des avions, il en avait dessiné un, notamment, où il y avait bien sûr un bar, une boîte de nuit, etc. Bon, il était un peu en avance sur son temps, et finalement, ça se fait aujourd'hui. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais tout ça, c'est inscrit pour lui. Et donc, finalement, Boris Vian avance avec cette écume des jours qui est en lui, hein, qu'il porte en lui. Alors, il y aura un premier roman qui est totalement inconnu, qui s'appelle « Troubles dans les Andins ». En même temps, je vous enjoins à le découvrir et à le lire, parce que « Troubles dans les Andins », il est extrêmement drôle. Et on retrouve plein de choses de sa famille et de son enfance. C'est son vrai premier livre, « Troubles dans les Andins », qui verra le jour après sa mort, hein, en matière d'édition. Et puis, de son vivant, il va y avoir « Vers coquin le plancton ». Gallimard trouve ce roman formidable. Tout de suite après, comme il est très prolixe, tout de suite après, on a « J'irai cracher sur vos tombes ». Ah, pouf. le scandale. Et tout de suite après, je vous parle de ça dans un mouchoir de poche. Il faut dire le gars comment il écrit. Et il est ingénieur à cette période-là. Et il joue de la trompette la nuit. Et hop, il y a l'écume des jours derrière. Et hop, il y a l'automne à Pékin derrière. Et hop, il y a Les morts ont tous la même peau. Enfin, il y a 5 ou 6 bouquins, des centaines d'articles à ce moment-là. Et puis, c'est Nuit au tabou, avec notamment, bien sûr, entre autres, M. Charlie Parker, son grand ami Miles Davis, et le Duke Ellington en personne qui viendra. Enfin bon, faut imaginer tout ce que ça représente. Et lui, il absorbe tout ça parce qu'il connaît tout ça. Il connaît tous les disques de jazz. C'est possible à cette époque, c'est possible de connaître tous les disques de jazz. Parce qu'on enregistre du jazz depuis pas si longtemps, sur des galettes, hein, bien sûr. Et lui, il est fait venir des États-Unis. Alors, je peux me permettre d'en parler parce qu'ils sont à la maison et que je les passe encore et qu'ils sont dans un état de perfection totale. On voit le Boris Vian qui sait exactement bien faire avec ses disques. Et il change d'aiguille selon la sonorité, selon ce qu'on doit entendre. Il change d'aiguille, hein, etc. Donc, Boris Vian, il a une vie qui est extrêmement dense, qui tient un peu de la... C'est un peu compulsif. Il a été malade à l'âge de 12 ans, puis à l'âge de 15 ans. Il sait qu'il va mourir. Alors, quand on le sort du contexte, c'est terrible. C'est terrible. Il a 12 ans, puis 15 ans, il sait qu'il va mourir. OK. Bon, moi, je vous le remets dans le contexte. On est en 1932 et en 1935. Autant vous dire que des enfants qui meurent à cet âge-là, ouais, à cette période-là, il y en a des milliers, ouais, et des milliers. Donc, on n'en fait pas tout un fromage, hein, j'ai envie de dire, on passe pas son temps à en parler. La famille Vian, même d'ailleurs, va complètement, même plutôt éluder la chose, au point que Boris ne va plus du tout lui-même en parler. Et c'est pour ça que pendant la guerre qu'il vit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il est dans le monde et il ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il est... Il ne veut pas peut-être se rendre compte, il veut peut-être pas sortir non plus de son monde. Donc finalement, c'est après que tout va se faire. Et c'est d'ailleurs grâce à cela que tout ça va sortir. Parce que quand même, non seulement il voit revenir son copain Jabès, quand même, des camps, et puis quelques autres, il voit d'autres, des copains anglais qui, dans l'aviation, dont un qui a le bras en moins. Bien sûr, il voit tout ça comme tout le monde. Mais il voit aussi les Noirs américains qui ont fait le débarquement et qui ont été de la chair à canon. Parce qu'il y a énormément d'Américains et de Noirs américains, bien sûr, à ce moment-là, et qui restent et qui s'installent en France, et à Saint-Germain-des-Prés, notamment. Donc, finalement, il ne peut pas rester en dehors. D'abord, la pression est trop forte, parce qu'il se permet d'écrire « J'irai cracher sur vos tombes ». Je vous rappelle quand même que ça traite des Noirs américains, qui sont... tout à fait malmené par le Ku Klux Klan, qui sont même assassinés, hein, ce qui lui vaut vraiment d'être laminé, et surtout, ce qui lui vaudra à vie de ne plus jamais être reconnu comme un auteur et comme un écrivain. Ça, c'est terrible pour lui. Et Magali Noël, hein, Magali, c'est celle qui a chanté « Fais-moi mal, Johnny », qui était sa grande amie et qui reste aussi une grande amie que je vois de temps en temps. Magali m'a dit « J'ai jamais vu Boris pleurer, sauf à un moment où il a dû reparler de l'écume des jours à l'occasion d'une conférence où on l'interviewait. » Et il a été vraiment bouleversé. Parce que lui, il savait que c'était un livre. Hein, un livre d'auteur, hein, voilà. Et parce que quand je vous parle de tout ce qui s'est fait avant, c'est pour lui, c'est un peu des travaux qu'on fait. Il s'essaye, hein, mais il faut savoir aller. Il savait qu'il touchait quelque chose du doigt là, à ce moment-là. Et tant mieux s'il s'est pas arrêté là. Tant mieux s'il a donné la suite, c'est-à-dire s'il a quand même réussi à faire notamment L'herbe rouge, L'automne à Pékin, Elles se rendent pas compte, etc. Et puis toutes ces nouvelles. Heureusement, mais c'est vraiment parce qu'il avait une force absolument hors du commun. Vraiment hors du commun. Parce que quand vous avez toute la presse, tout le monde de l'édition et le public indirectement, mais le public qui ne trouve pas de toute façon les livres de Boris Vian. Donc de toute façon, il ne peut pas lire Boris Vian. Alors, la nuit, il se balade la nuit parce qu'il ne dort presque pas, Boris Vian, à cause de ses angoisses. C'est un homme, toute sa vie, il a dormi entre 2, 3, 4 heures par nuit. C'est absolument réel. C'est une des raisons pour lesquelles il est mort totalement épuisé. Rendez-vous compte. Alors la nuit, de temps en temps, alors il allait toujours chercher un copain, un autre, et ci et ça, enfin, toujours à faire, hein, nuit et jour. Alors la nuit, il s'arrêtait devant les librairies, à Saint-Germain-des-Prés notamment. Et puis alors il regardait s'il y avait un de ses livres. Hein. il restait longtemps et c'était important. Et ça, c'est vraiment des amis très proches qui me l'ont dit, qui ont vécu ça avec lui. C'est émouvant. Parce que vous voyez, quand Boris arrive jusqu'à nous, ben voilà, c'est une sorte de petit panthéon. Hein, je veux dire, des grands auteurs, il y en a bien sûr plein d'autres. Il ne s'agit pas de ne voir que lui. Je serais prétentieuse, mais ça reste quelqu'un qui a vraiment un point de vue et des écrits tout à fait personnels. Et en plus, qui a écrit des tas de chansons. Et ça, je crois que ça reste vraiment extrêmement rare d'avoir quelqu'un qui est aussi connu par la musique que par ses écrits littéraires. Donc ça, ça donne vraiment deux pendants tout à fait incroyables. Et puis, il a écrit de l'opéra, il a écrit des pièces de radio, des pièces radiophoniques, et puis des tas de nouvelles, des tas de chroniques, etc. Donc, il s'intéressait à des tas de choses. Mais finalement, personne n'est intéressé par Boris Vian. Parce qu'on le trouve absolument déplaisant, ce jeune homme. Et je vais vous dire pourquoi il est si déplaisant. Il est déplaisant parce qu'il est très beau, il est très altier, très princier, pour ça on l'a surnommé le prince de Saint-Germain-des-Prés, c'est quand même pas rien. Il a ses lettres, il est quand même extrêmement instruit, c'est quelqu'un qui parle très très bien, qui se conduit très très bien, et donc il est très dur finalement à contourner. Donc il a beaucoup de détracteurs qui aimeraient bien lui rentrer dedans, si c'était un monsieur finalement, ou grossier, mais finalement il est relativement sympathique, et puis il parle extrêmement bien, il écrit très bien, et donc on ne sait pas trop par quel bout l'attraper, parce que d'un seul coup, Il vous tourne le dos, puis il se met à jouer de la trompette. Et puis, dans le fond, il s'en fiche. Simone de Beauvoir lui propose de traduire. Ça ne m'intéresse pas. Vous imaginez Simone de Beauvoir qui vous propose quelque chose. Il n'oserait même pas, je veux dire, dire non. Lui, il est libre. Il est libre. Il fait vraiment ce qu'il veut, comme il veut. Cette liberté, il la paiera toute sa vie. Mais il y a une chose qui est merveilleuse, c'est qu'il la paye et en même temps, il est toujours là. Parce qu'il ne s'est pas détourné de lui-même.
Je crois que c'est aussi ça qu'on ressent, et c'est ça qui plaît encore aujourd'hui quand on le lit, c'est qu'on sent quelqu'un qui a vécu une vie courte, mais totalement celle qu'il voulait, en fait. Et je pense qu'il y a un message qui passe dans ses écritures, et notamment dans L'écume des jours, qu'on ressent de façon... confuse mais réelle.
Absolument. Ça, oui. Souvent les jeunes qui viennent, les classes qui viennent me voir et tout, souvent il y en a qui disent oh, mais c'est un peu comme un grand frère, on sent qu'on pourrait se confier à lui. Enfin, il y a une espèce de proximité comme ça avec lui qui fait qu'on peut vraiment. Voilà. Alors, cette proximité, Ursula justement a tenu à ce qu'elle perdure à travers cette maison qu'est la cité Véron. Et c'est vrai qu'il y a. Cette idée, justement, de facilité, de rencontre. Donc, Ursula l'a tenue, finalement, à faire la même chose. Vous savez, du vivant de Boris, ça tape à la porte. Hein. Bonjour, monsieur Vian. C'est comme ça que Gainsbourg, il venait. Il passait d'abord chez Prévert ou d'abord chez Vian. Bonjour, je suis monsieur Gainsbourg. Enfin, on ne peut pas imaginer ça, mais c'était quand même comme ça. Ou Moustaki, etc. Moi, ces gens-là, je les ai vus bien après, quand ils étaient, bien sûr, très célèbres. Et donc Ursula, elle a tenu à cette proximité et cette promiscuité. C'est-à-dire que quand on vient à la maison, vous venez à la maison, on est dans le salon, on s'assoit à la table, là où il est, ou dans le bureau, les choses sont là et on peut partager vraiment ce moment de vie et tout. Et ça, c'est ce qu'il aimait. La seule chose qu'il n'aimait pas, c'est la bêtise. Hein. Mais ça, je crois que, heureusement, j'espère, on est beaucoup comme ça et à la condamner. Donc, Boris Vian aimait beaucoup s'amuser. D'ailleurs, ses chansons sont quand même très, très drôles. Enfin, avoir le culot d'écrire la Java des bombes atomiques, par exemple, en 1954, qui fait à l'époque la une du Canard enchaîné. Imaginez-vous, c'est en même temps se payer un culot terrible. C'est-à-dire que plus il allait loin, plus il savait qu'il était complètement foutu si un jour il devait réécrire. Alors, il fait son dernier livre, ça va être L'Arrache-cœur. On est en 1953, il y pense depuis 1947, et en fait, L'Arrache-cœur, ça devait être deux livres. Hein, c'est-à-dire le livre que vous avez aujourd'hui entre les mains, ça devait être le premier tome. C'est-à-dire que si vous prenez le manuscrit, c'est marqué « Première manche ». Voilà. Et ça devait s'appeler « Les fillettes de la reine », d'ailleurs. Et en fait, les trumeaux, c'est-à-dire les jumeaux les trois jumeaux, non pas les triplés, mais les trumeaux, en fait, il y avait une histoire après. Là, il a été tellement dégoûté en 53-54, quand il arrive cité Véron, que la première chose qu'il va faire livrer, c'est un piano pour, entre autres, Michel Legrand qui vient jouer, mais aussi, bien sûr, Henri Salvador, et puis un autre monsieur plus que célèbre, puisqu'il a été le producteur de Michael Jackson, Quincy Jones, qui venait aussi à la maison. Et en fait, tous ces gens-là qui ont fait l'époque du jazz et tout, Boris Vian s'est dit, il y a un truc à faire quand même. Alors, d'où les premiers rocks qu'il va faire pour se fiche, en fait, de cette époque-là. Mais en même temps, trouver un parti pris de chansons un peu différentes qu'on n'a pas toujours l'habitude d'écouter. Et encore une fois, j'ai envie de dire, il nous étonne aussi dans ses chansons. Et le jour où il va écrire Le Déserteur, là, bien entendu. Alors, Le Déserteur, il y a quelque chose d'historique qui est un peu faux. On dit souvent qu'il a écrit au moment où Dien Bien Phu est tombé. Alors, en fait, c'est faux parce que modestement, j'ai retrouvé dans ses papiers les premières lignes du Déserteur et qui sont en fait antérieures. Parce que, encore une fois, c'est bien avant pour Boris Vian. Le Déserteur, c'est bien avant. C'est des chansons, c'est des complaintes qu'on chantait au XIXe siècle. Il y a une chanson qui s'appelle le Conscrit, une autre qui s'appelle Le Déserteur, déjà, à cette époque-là. Ça n'avait rien d'extraordinaire, mais ça a choqué énormément à l'époque. Il faut savoir que pendant la guerre du Golfe, en 91, Le Déserteur a été interdit d'antenne, également. Et je crois que ça reste une chanson emblématique, en tout cas Joan Baez, à travers le monde, quand elle chante sur scène encore aujourd'hui. Elle chante toujours Le Déserteur ou À tous les enfants, qui est une autre chanson tout à fait du même genre, qui est une chanson dédiée à tous les enfants qui meurent pendant la guerre. Et je peux dire que c'est une chanson extraordinaire. Et Vian en a écrit au moins une vingtaine, comme ça, à la même époque du Déserteur. C'était une façon pour lui, vous voyez, anachronique, comme tout le reste, d'écrire en chanson qui ne veut pas la guerre. Alors des gens disent il se fiche du monde d'écrire ces chansons-là. Parce que finalement, il ferait mieux d'aller militer, d'aller dans la rue, d'aller faire écrire des pamphlets. Oui, ben non. Ben Vian, sa façon à lui, c'est de faire cela, en fait. Parce qu'il estime que les choses sont faites ainsi dans la douceur, hein, tout simplement. Et qu'en même temps, il dit beaucoup de choses. Parce que quand on décrypte ses chansons, elles sont très puissantes. Hein. Je reviens sur la Java des bombes atomiques, où il y a l'oncle bricoleur qui enferme tous les chefs d'État dans une cahute et qui finalement fait exploser tout ce petit monde-là. Ben quand même, alors on peut imaginer. Alors, il y a à Europe 1, Vian était interdit d'antenne. Il avait écrit une chanson qui s'appelle 14 juillet aussi, où il parlait du 14 juillet, ça ne plaisait pas. Alors Boris Vian et Alain Goraguer ont décidé d'écrire une chanson qui serait la chanson la plus idiote. Et ils ont écrit « Pan, 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 poire aux pommes de terre ».« Pan, 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 poire aux pommes de terre ».« Pan, 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 pommes de terre, poireaux ». Et ils ont même fait une danse, et Maurice Chevalier l'a chanté. Ça a eu un succès phénoménal. Et donc, devant Europe 1, vient donner une interview en disant « Voilà, maintenant on a le droit de me passer avec cette chanson totalement débile. Nous avons décidé avec mon copain d'écrire la chanson la plus abrutie. On y a réussi, visiblement, ça marche très très bien. Et le pauvre, il se faisait du souci pour l'avenir déjà de la France et d'un certain nombre de choses qui pouvaient passer à l'antenne. Hein, parce que cette chanson, effectivement, il a réellement écrite comme cela. Hein, il était vraiment premier degré quand il s'y mettait et un peu vachard, voilà. Donc ça c'est le Boris Vian, pour en finir, le Boris Vian donc, de la chanson chez Philips, etc. Et puis il était fatigué, et puis après avoir vu ce show business qui existait déjà, avoir écrit un livre dessus qui s'appelle « En avant la zizique, par ici les gros sous ». Je ne vous fais pas de dessin, il est écrit en 1958. Je peux vous dire que si vous le lisez aujourd'hui, c'est terrifiant. Parce que ça fait du bien, parce qu'on dit « Oui, aujourd'hui, ceci... » Mais non, non, non. Lisez en avant la zizique par ici, les gros sous. Vous allez voir, il vous parle des interprètes et de tout le micmac qu'il y a sur scène, derrière la scène, et de la radio, et ci et ça. Et en même temps, des choses très jolies. Tout n'est pas... Mais bon, ce monde d'argent, ce n'est pas nouveau. C'est intéressant, quoi, de le voir comme ça. Il ne s'est encore pas fait d'amis du tout dans ce monde-là. Et justement, ça ne le dérangeait pas, puisqu'en 58, il savait qu'il allait définitivement abandonner son métier de directeur artistique. Il savait que de toute façon, vraiment, il allait mourir dans peu de temps. Mais de toute façon, il ne voyait pas les choses comme ça. Il y a surtout qu'il avait l'impression d'avoir fait le tour de la question. Il avait quand même écrit 600 chansons en 4 ans. c'est quand même pas mal. Hein. Mmh. Et sont venus jusqu'à nous au moins une vingtaine qui restent quand même plutôt célèbres, comme Je suis snob notamment. Ou, il y a aussi, il y a la Java mondaine, etc. Mmh. La Java des chaussettes à clous, qu'a chanté Higelin et tout. Et il est chanté par plein de monde aujourd'hui. Et Boris Vian aurait souhaité lui faire de l'opéra, voilà. Et il avait écrit déjà un opéra. Et ses derniers écrits, c'est un opéra qui s'appelle Le Mercenaire, qui traite malheureusement encore de la guerre. Et il a eu le temps d'écrire le cœur des démineurs. Donc, vous voyez, on est vraiment dedans. Et avec, vous voyez, les champs de mine, tout ce qu'on dit aujourd'hui là-dessus. Voilà, il était encore une fois dans son temps et déjà devant. Mais finalement, il le disait lui-même, être devant, c'est être dans son temps. Et je le crois volontiers. Il était terriblement dans son temps, Boris Vian, au point justement qu'il pouvait très très bien se projeter. Et en tant que grand lecteur de science-fiction et en tant qu'ingénieur, il avait une notion de la science et donc tout ça le faisait se projeter.